19h, très belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
Là, c'est le nettoyage. Et ensuite, demain, ce sera uniquement la mise en place. On est prêt à être opérationnel mercredi à midi.
Ils sont prêts, le bol d'air tant attendu, c'est pour après-demain, après des mois de restrictions.
Oui, réouverture des bars, des restos, en terrasse, une reprise qui demande une certaine préparation.
Sanofi n'était pas le premier sur la ligne de départ d'arrivée, mais le laboratoire français est bien parti pour rattraper son retard. Son candidat vaccin a passé la phase 2 avec succès. La production industrielle devrait débuter le mois prochain.
Quelques mois après l'américain Perseverance, un petit robot chinois s'est posé sur la planète rouge. Victoire technologique, mais aussi politique. On en parlera pour Pékin. C'est ce que nous dira Didier François.
Et plus d'habitude à cette période, les jeux sont faits. On connaît déjà le champion de France de foot. Et bien cette année, les clubs à tous les étages ont décidé de faire durer le suspense.
Un mot de la météo, Anissa Dadi, avec encore un peu de patience avant de retrouver le beau temps, parce que demain, ça s'annonce pas terrible, terrible.
Oui, demain, ça s'annonce exactement comme aujourd'hui, avec des averses qui alternent avec les éclaircies. Les orages seront encore nombreux demain, dans une ambiance fraîche, avec des températures en dessous des normales de saison. Le mieux, c'est pour jeudi, alors patience.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après avoir compté les jours, les Français comptent les heures. Dans 48 heures, à cette heure-ci, ce sera presque l'heure de l'apéro. Et il y a fort à parier que les terrasses sont prises d'assaut.
Cafés, brasseries, restaurants sont dans les starting blocks, effectivement, pour cette réouverture après de longs mois sans accueillir aucun client. Une réouverture, évidemment, qui se prépare.
Oui, comme vous l'avez constaté chez vous à Toulouse, Benjamin Péter.
Oui, je me suis rendu dans cette pizzeria située autour de la galerie commerçante de Purpan, au nord de Toulouse. Depuis quelques jours, les commandes sont parties, le personnel est revenu. Stéphane est cuisinier, il avait hâte de reprendre le travail.
Déjà, on a retrouvé les collègues, déjà, qu'on n'a pas vu depuis 7 mois. Et puis, retrouver le client après, parce que je pense qu'ils sont, ils nous attendent aussi. On est prêt. Là, c'est le nettoyage. Et ensuite, demain, ce sera uniquement la mise en place. Préparer les denrées pour pouvoir être opérationnel. Mercredi à midi.
Le restaurant avait ouvert il y a un an seulement. Pour tous, il a fallu retrouver les gestes du quotidien. Et pour Elisabeth Moret, la gérante de cette pizzeria d'Elerté, repenser toute la terrasse.
On va exploiter notre terrasse à 50%. Et j'ai également la chance d'avoir une deuxième terrasse grâce à mon centre commercial qui m'a légué quelques places de parking. On répète nos gammes, on se prépare à porter un plateau, porter ses assiettes tout bonnement quand on est serveur, mais aussi réviser ses recettes hein, quand on est cuisinier, reprendre tous les bons gestes.
Alors il a aussi fallu racheter du matériel pour équiper cette seconde terrasse, mais ce qu'ils craignent, c'est désormais la météo qui s'annonce maussade ici. En cas de pluie, il faudra donc reprendre le click and collect.
Le reportage de Benjamin Péter à Toulouse, on rappelle que mercredi, c'est aussi la réouverture des commerces non essentiels, des cinémas, des théâtres notamment, et la prolongation de l'heure du couvre-feu de 19h à 21h.
Cette bonne nouvelle maintenant pour les amateurs de sensations fortes ou de féeries.
Disneyland Paris rouvrira ses portes dans un mois, jour pour jour, le 17 juin. Le port du masque pour les visiteurs de plus de 6 ans, il sera obligatoire. Notez que le Futuroscope et le parc Astérix rouvriront un peu plus tôt, dès le 9 juin. Et notez que la directrice générale du parc Astérix sera l'invitée ce soir de l'interview Echo à 22h20 au micro d'Emmanuel Duteil. Les discothèques, elles, n'ont pas encore de date de réouverture. Des élus locaux demandent qu'elles puissent rouvrir leurs portes à partir du 30 juin pour éviter les fêtes sauvages au cœur de l'été.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, mènera une concertation avec l'ensemble des représentants des boîtes de nuit à la mi-juin.
Et plus vite on sera vacciné, plus vite on pourra de nouveau danser, coller serré. Eh bien, bonne nouvelle, Sanofi vient de franchir une étape clé.
Oui, je sais que ça vous manque, ça, de danser collé serré.
Bah oui.
Le PDG du laboratoire français a effectivement annoncé ce matin au micro d'Europe 1 des résultats positifs de son essai clinique de phase 2. Les essais de phase 3 vont donc pouvoir commencer prochainement et parallèlement, Sanofi va donc lancer la production de ce vaccin. C'est dire si le laboratoire est confiant, Anne Le Gall.
Oui, après les résultats décevants de décembre chez les personnes âgées, le laboratoire a annoncé cette fois une réponse immunitaire de 95 à 100% après deux doses de son candidat vaccin. Une efficacité mesurée dans toutes les tranches d'âge de 18 à 95 ans. Ce sont donc des résultats très proches de ceux obtenus avec les vaccins à ARN messager. Mais ce vaccin, qui utilise la technique de la protéine recombinante comme certains vaccins antigrippe, a l'avantage en plus de se conserver dans un simple frigo entre 2 et 8 degrés. Ces bons résultats vont donc permettre permettre de déclencher début juin les essais cliniques de phase 3 sur 35 000 personnes ainsi que le début de la production industrielle. Malgré ces résultats tardifs, Sanofi estime que son vaccin sera à la fois utile pour les premières injections et pour les rappels si la vaccination devient saisonnière. 10% de la planète seulement est vaccinée avec une seule dose, rappelle le président de Sanofi France, Olivier Bougillot. Si les résultats prometteurs se confirment, les injections pourraient ainsi démarrer courant novembre.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Merci Anne.
On vous intube, il nous entube. Slogan entendu aujourd'hui dans les manifestations d'infirmiers anesthésistes.
Blouse bleue et verte et masque de réanimation sur la tête, ils voulaient avant tout réclamer une reconnaissance de leur statut et des hausses de salaire.
Ils se disent épuisés professionnellement et personnellement.
Oui, c'est un fléau qui a été boosté par la pandémie dont on vous parle maintenant, la cybercriminalité.
De plus en plus d'entreprises sont victimes d'attaques au ransomware qui paralysent leur système informatique et leur activité. Un phénomène qui s'est encore amplifié ces derniers mois. 9 entreprises sur 10 considèrent qu'il est essentiel de se protéger. Le problème, et c'est une information qu'Europe 1 vous révèle, c'est que les PME ne mettent pas les moyens nécessaires pour éviter ce genre d'attaque, Clément Le Saffre.
Oui, selon cette étude, pour 60% des PME, le budget pour la protection de leur système informatique ne doit pas dépasser 1 000 euros par an, une somme qui suffit tout juste pour une TPE de moins de 10 salariés et qui est donc très insuffisante pour une entreprise de 20 ou 50 salariés. Mais au-delà des considérations financières, pour Guillaume Gamelin, vice-président de F-Secure France, il faut surtout mieux former les salariés à la sécurité informatique.
Ça va être d'avoir une bonne sauvegarde de ces données pour être capable, au pire, de repartir le plus vite possible, éduquer les utilisateurs pour changer de mot de passe régulièrement, utiliser des mots de passe forts. Ça va être éduquer les utilisateurs, par exemple, sur le fait qu'il faut patcher régulièrement les machines. Aujourd'hui, on ne se doute pas, mais 8 cyberattaques sur 10 utilisent une faille de vulnérabilité, qui est connu.
Et ce manque de connaissances crée un décalage problématique dans la perception des risques liés aux cyberattaques. 2/3 des dirigeants interrogés estiment que leurs salariés sont suffisamment protégés, et ce alors même que les mesures de base ne sont pas toujours prises. Une entreprise sur 2 ne sécurise pas ses postes de travail et 1 sur 3 n'utilise même pas d'antivirus.
Clément Le Saffre du service Écho d'Europe 1.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous, 19h07, dans quelques secondes, la guerre des étoiles. En vrai, la Chine réussit à son tour à faire atterrir un robot sur Mars.
Et puis les supporters de foot sont un petit peu nerveux. Ils devront attendre la toute fin du championnat cette année pour connaître le classement de leur club.
A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite du journal. La Chine a donc réussi à poser ce week-end un drone sur Mars, s'imposant par cet exploit comme la seconde puissance spatiale du monde derrière les États-Unis.
Et on en parle avec notre spécialiste des affaires internationales, forcément. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors c'est un énorme succès technologique, évidemment, mais aussi une victoire politique pour Pékin.
Effectivement, ce petit robot autonome, alors qu'il s'appelle Zhurong, c'est un peu le Spoutnik chinois, dans le sens où, rappelez-vous, quand les soviétiques avaient réussi l'exploit d'envoyer le premier satellite tourné en orbite autour de la Terre, c'était en 1957, en pleine guerre froide, eh bien, ce fut la démonstration que Moscou maîtrisait parfaitement la technique des fusées extra-atmosphériques, et donc celle des missiles balistiques intercontinentaux. Aujourd'hui, la maîtrise de l'espace reste un enjeu stratégique majeur dans la compétition internationale, et la capacité à poser un astromobile complètement autonome sur la planète rouge, donc à 320 millions de kilomètres de la Terre, c'est la démonstration que Pékin a désormais les moyens scientifiques et financiers de s'imposer comme un sérieux concurrent à la domination américaine, parce qu'à ce jour, seuls les États-Unis avaient réussi à fouler le sol de Mars, sachant que le démonstrateur Schiaparelli de l'Agence spatiale européenne avait explosé lors de sa descente en 2018. Alors certes, la NASA garde une avance très confortable avec 5 missions réussies depuis 1997, mais elle n'est plus en situation de monopole. C'est exactement ce que voulait prouver au monde le président Xi Jinping, qui martèle son objectif de hisser la Chine au rang de toute première puissance d'ici à 2035.
Oui, d'autant que Mars n'était pas le seul programme chinois.
Alors tout à fait, mais parce que pour Pékin, l'année 2021 a une très forte charge symbolique. On fêtera au mois de juillet, le centenaire de la création du Parti communiste chinois. Donc c'est pas totalement un hasard si le programme spatial chinois a été particulièrement bien doté au cours de ces derniers mois, avec des missions d'exploration lunaire très spectaculaires, la collecte de matériaux par le petit robot Chang'e en décembre dernier, ou le lancement du premier élément d'une station habitée le 29 avril dernier. La course à l'espace a été sciemment mise en avant par la propagande, car c'est une thématique qui projette l'image d'une Chine puissante, conquérante, dont veut absolument se parer le régime.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Du suspense jusqu'à la fin cette année en Ligue 1 de foot. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Lille aurait pu dès hier soir devenir champion de France, mais le LOSC a concédé le nul à Saint-Etienne, ce qui permet au PSG de revenir en embuscade. Julien Fromont, du suspense, il y en a eu à tous les étages.
Oui, à commencer, vous l'avez dit, par les candidats au titre. Un petit point seulement, sépare Lille du Paris Saint-Germain. Les Parisiens, habitués à gérer la pression dans ce genre de situation, ce qui n'est pas le cas de Lille, comme le concède l'entraîneur Christophe Galtier après le match nul contre Saint-Etienne.
Beaucoup de nervosité, beaucoup d'erreurs techniques, sûrement pris par l'enjeu, je pense vraiment. Nous n'avons pas fait le match qu'on attendait.
Malgré cet accroc, les Lillois sont toujours maîtres du temps, une victoire à Angers, et ils seront sacrés, quoi qu'il arrive, champions de France pour la quatrième fois de leur histoire, même si Paris venait à l'emporter à Brest. Un peu plus bas, lutte intense pour la troisième place, synonyme de Ligue des Champions entre Monaco 3e et Lyon 4e. Eux aussi sont séparés d'un petit point. Marseille, quant à lui, a sécurisé sa place en Europe la saison prochaine. Reste à savoir si ce sera la toute nouvelle Ligue Europa Conférence ou la Ligue Europa. Les Marseillais, pour le moment, 5e. Derrière, Lens et Rennes espèrent aussi être 6e et donc européens. Enfin, dans le bas du classement, faites vos jeux. 6 clubs se tiennent en 2 points et sont concernés encore par les barrages. C'est le cas de Nantes, Lorient, Strasbourg, Bordeaux, Reims et Brest. Enfin, Nîmes et Dijon joueront pour l'honneur. Ils sont déjà relégués en Ligue 2 pour la saison prochaine.
Voilà, faites vos jeux. Julien Fromont du service des Sports d'Europe 1.
C'était le journal d'Isabelle Millet. On vous retrouve demain, Isabelle, évidemment, à partir de 18h.